Hélène Roussel pour le journal. Bonjour Hélène.
Bonjour. Bulletin, isoloir, urne, les bureaux de vote ouvrent tout juste. Départemental, régional, premier tour, voter. Pourquoi ? On vous rappelle les compétences, les responsabilités de ces territoires dès le début du journal. Ce soir, c'est le dernier verrou qui saute.
La liberté. Voilà, enfin.
Terminé le couvre-feu, le contre-la-montre, 23h c'est fini, la nuit nous appartient. Et puis aussi le silence dans les champs, à côté de Redon, les gendarmes ont fini d'évacuer les fêtards hier en fin d'après-midi. Les bleus étouffés par la chaleur et les supporters de Budapest, un partout, mais il n'y a pas le feu au lac selon Didier Deschamps. Enfin, Philou Sport est mort, une célébrité sur les réseaux sociaux, son portrait dans Esprit Sport tout à l'heure.
Et à 8h20, question à André Manoukian, à la veille de la fête de la musique. André Manoukian pour son livre intitulé « Sur les routes de la musique », coédité par HarperCollins et France Inter.
France Inter. Deux files d'attente, une réservée aux personnes vulnérables et donc prioritaires, la deuxième pour tous les autres. Masque et distance d'1,50 m entre chaque électeur obligatoire. Pensez aussi à prendre votre propre stylo pour émarger. Élections départementales et régionales sous Covid. 48 millions de Français appelés aux urnes. Les bureaux de vote viennent tout juste d'ouvrir. On a beaucoup parlé de sécurité pendant la campagne. Or, ça ne fait pas du tout partie des compétences, ni des régions, ni des départements. Avant de voter, piqûre de rappel avec vous, Laurent Speron, sur leurs responsabilités.
Depuis la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, mise en œuvre sous François Hollande en 2015, les compétences des régions et des départements se sont enrichies. La région est désormais responsable de l'aménagement numérique. Son rôle de promotion du développement économique et social est renforcé. Le conseil régional doit coordonner les actions du service public sur l'emploi et la formation professionnelle. Parmi ses prérogatives, l'aménagement du territoire, le développement durable, le recyclage et la valorisation des déchets. Le soutien à la culture est inscrit depuis toujours dans ses missions, ainsi que la promotion des langues régionales. La santé entre dans ses compétences, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Enfin, très gros sujet, les transports et la rénovation de l'habitat. Les départements assurent l'entretien et l'équipement des collèges, la gestion de la voirie, les services des pompiers. Mais là encore, et c'est devenu une charge de plus en plus lourde pour certains, l'aide sociale à l'enfance, au handicap, aux personnes âgées et surtout le RSA.
La région et les départements, Laurence, qui paient tout cela ?
Si la refonte des régions en 2015 n'a pas eu véritablement d'impact financier, les dépenses sont restées relativement stables, avec des budgets compris entre 130 millions d'euros pour la Guyane et plus de 4 milliards pour l'Île-de-France. Leur endettement reste toutefois pour la plupart important. La situation budgétaire des départements est beaucoup plus contrastée. Là où Paris, l'Indre ou les Yvelines présentent des endettements marginaux, la Seine-Maritime, les Alpes-Maritimes, la Haute-Garonne ou la Seine-Saint-Denis sont plus sévèrement affectés. L'aide sociale et notamment la charge du RSA pèsent lourdement sur les territoires les plus déshérités.
Laurence Peron, les bureaux de vote ouverts depuis quelques minutes ferment à 18h ce soir, 20h dans certaines villes. Et vous pourrez suivre la soirée électorale sur France Inter. Émission spéciale à partir de 19h20 présentée par Claire Servageant et Yaël Gauze, chef de notre service politique, avec de nombreux invités, des candidats, des professeurs en sciences politiques et nos reporters sur place aux quatre coins de la France. Le Covid qui poursuit sa décrue spectaculaire. Une centaine de patients hospitalisés hier, 24 admis en réanimation. Et le gouvernement lève la barrière avec 10 jours d'avance, plus de couvre-feu. Terminé leur limite pour rentrer chez soi. On vivait ainsi depuis la mi-octobre. À partir de ce soir, donc plus besoin de regarder la montre avant 23h. Chacun sera libre de circuler toute la nuit s'il le souhaite. Des séances ciné à 22h, des bars ouverts jusqu'à 2h du matin. L'été sera chaud, parole de Biarrot.
La liberté. Voilà, enfin.
Quand on va au restaurant, oui, ça va beaucoup changer. Je pense surtout pour les restaurateurs qui étaient obligés de courir dans tous les sens pour faire un malheureux service. C'était horrible.
On va pouvoir ressortir enfin un petit peu, pouvoir enfin aller au resto. Un peu plus tard. Ouais, c'est plutôt le resto, ouais. Enfin, ouais. Pour nous, c'est resto et bar.
Bah oui, pareil, resto et bar, c'est la même chose.
Juste profiter d'aller pouvoir faire au moins un pique-nique sur la plage. Et c'était quand même une contrainte à chaque fois qu'on voulait faire des repas ou même des petites soirées. On devait toujours se prévoir de rester dormir soit chez l'un, chez l'autre. Nous, on a pris les risques.
Bah déjà, effectivement, on se sent moins, pas stressé, mais avoir l'angoisse de voir à quelle heure il faut rentrer et tout. Puis je pense que ça procure une sorte de liberté aussi.
Moi, j'ai prévu un bain de minuit que je pouvais pas faire avant. Ah, ça me manque.
Des habitants de Biarritz au micro France Bleu Pays Basque de Nina Valette. Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans la presse ce matin, rappelle qu'il y aura malgré tout des garde-fous pendant cet été. Le Covid n'a pas disparu. Distribution sur les plages d'autotests et isolement imposé, davantage contrôlé pour les cas positifs. festif. Les boîtes de nuit, elles ne rouvriront pas tout de suite, pas avant au moins le mois prochain. La France relâche la pression, mais l'épidémie circule dans le monde. Chez nos voisins britanniques, plus de 9000 cas détectés chaque jour, en hausse de 33% sur une semaine. Le variant Delta s'étend. Idem à Moscou, en Russie, plus de 9000 cas, un record dans le pays. En Iran, situation sanitaire catastrophique. Le pays vient d'élire son président, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Les Américains, d'ailleurs, ont regretté que les Iraniens aient été privés d'un scrutin libre, mais assurent vouloir continuer les négociations sur le nucléaire. Le nouveau président, donc, qui prend ses fonctions cet été, devra redresser l'économie, mais ce n'est pas le seul défi. On l'aura compris, l'Iran est le pays du Moyen-Orient le plus touché par le Covid. Reportage de notre envoyé spécial à Téhéran, Franck Madvon.
Ali vient de garer sa voiture, il est chauffeur de taxi et prend très peu de clients actuellement. Il craint une contamination au Covid.
Mon oncle est mort du Covid.
Sa femme est infirmière, elle a été témoin de l'arrivée massive de patients dans les hôpitaux. Ali est convaincu que les autorités ne disent pas tout à la population.
Moi je suis inquiet. Personnellement, mon travail de chauffeur a été beaucoup affecté par l'épidémie. Depuis un an et demi, j'ai limité mon activité. Je ne fais pas confiance à ce que nous dit le gouvernement. Je vois bien que c'est mal géré. Je ne fais aucune confiance aux autorités.
L'Iran a subi 4 vagues épidémiques. 83 000 morts selon le bilan officiel, sans doute beaucoup plus en réalité. Et le nombre de cas est à nouveau en légère hausse. La pandémie a par ailleurs amplifié la crise économique.
Le tapis, carpet.
Mohammad est vendeur de tapis au bazar de Tajrish à Téhéran.
Avant, beaucoup de touristes et d'hommes d'affaires venaient en Iran pour signer des contrats. Mais maintenant, à cause du corona, ils ne peuvent plus prendre l'avion pour venir ici à Téhéran.
La campagne de vaccination est lente. L'Iran doit pour le moment compter sur d'autres pays, Chine, Russie, et connaît de sérieux problèmes d'approvisionnement. À Téhéran, Fabien Gosset, Franck Madvon, France Inter.
Ravage aussi au Brésil. 500 000 morts, la barre est officiellement franchie. Et encore, les chiffres sont sans doute en deçà de la réalité, selon de nombreux épidémiologistes. Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, un pays où la vaccination est encore très lente, mais où le gouvernement refuse de prendre de nouvelles restrictions dans les grandes villes, bars, restos, commerces, tout reste ouvert. Et les habitants peuvent toujours se promener sans masque. Enfin, brin d'optimisme en provenance d'Inde, le pays au variant Delta qui fait trembler la planète. 58 000 cas ces dernières 24 heures, c'est le nombre le plus bas depuis près de 3 mois.
En France, Hélène, c'est le retour au calme près de Redon après de violents affrontements.
Presque 24 heures de lutte entre fêtards et forces de l'ordre. Une rave party en hommage à Steve Maillac à Nisso, ce jeune homme mort noyé à Nantes le soir de la fête de la musique il y a 2 ans. Rave interdite par les autorités. Le silence est donc revenu hier en fin d'après-midi. Le site entièrement évacué, mais le bilan est lourd. Une dizaine d'interpellations, 11 gendarmes blessés et un jeune de 22 ans, la main arrachée dans des circonstances encore inconnues. Timur Özturk de France Bleu Armorique était sur place hier quand les gendarmes ont mis le point final.
La techno résonne à des kilomètres à la ronde. Les festivaliers sont installés sur un grand champ quand les silhouettes casquées des gendarmes mobiles surgissent au milieu de la rave party. La foule des fêtards se met à courir dans la panique, poursuivie par les forces de l'ordre et les grenades lacrymogènes. Des unités de gendarmes abattent les murs d'enceinte et donnent des coups de masse dans le matériel du festival.
Sérieux, putain, mais vous n'avez pas de cœur. Pourquoi vous cassez? Vous pouvez le prendre, non? Vous n'êtes pas obligé de le casser.
Les festivaliers sont sonnés par l'intervention soudaine des forces de l'ordre.
Là, ils cassent les murs, ils font tomber les murs. En 5 minutes, ils ont tout détruit.
Michel, 27 ans, petite barbe et piercing dans le nez, s'énerve contre l'interdiction des rave parties.
On fait ça juste 2 soirs ou un seul soir, après on s'en va, on ramasse. Et on nous laisse ramasser, on ramasse les déchets. C'est une culture à part entière qu'on essaie de défendre et qu'on est encore aujourd'hui géré par le ministère de l'Intérieur et pas par le ministère de la Culture. Et ça fait 30 ans que ça dure, quoi.
Lorsque le nuage de gaz lacrymogène se disperse, des hélicoptères survolent les bois, plus de musique. Il n'aura fallu que quelques minutes pour arrêter la fête.
Reportage de Timur Özturk près de Redon. Des orages violents encore attendus aujourd'hui dans 23 départements, dans le Massif central ce matin, dans le Nord-Est cet après-midi. Hier, on a vu des grêlons comme des balles de tennis, des torrents de pluie, une tornade même dans le village viticole de Saint-Nicolas de Bourgueil près de Saumur, jusqu'à arracher le clocher de l'église. De gros dégâts encore en région parisienne, à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Un toit de 600 mètres carrés s'est envolé, 2 blessés légers, 30 de personnes évacuées. Le maire Luc Carvounas évoque un champ de guerre.
De toute l'Île-de-France, nous avons été l'épicentre, malheureusement à Alfortville, de cet orage extrêmement violent. Nous avons un quartier entièrement dévasté. C'est une toiture de 600 mètres carrés qui est parti dans l'immeuble d'en face. Hier soir, j'ai assisté à un spectacle de guerre, en fait. Le quartier était totalement retourné. L'orage a démarré vers 18h30. La pluie était tellement violente qu'on ne voyait plus les immeubles des fenêtres où nous habitions.
Et le maire d'Alfortville réclame la déclaration de catastrophe naturelle météo complète à la fin de ce journal. Enfin, ça va être leur fête. Le congé paternité allongé à partir du 1er juillet de 11 à 25 jours, c'est à lire sur franceinter.fr. Et puis nous sommes le 20 juin, les papas sont gâtés, les enfants un peu gâteux.
Il est grand, il est fort. Il cuisine bien.
Il est généreux. Il est aimable aussi.
Il joue avec moi. Il mange avec moi. Il va partout avec moi. Il fait tout avec moi.
Bah, il est intelligent et il est costaud.
Mon papa, il est toujours à l'écoute et il est ouvert d'esprit.
Drôle, attentionné, merveilleux.
Il est sympa.
Il me fait rire tout le temps comme ça.
Il est beaucoup au travail, mais il reste quand même beaucoup avec nous.
Bah, je l'aime bien quand il fait sa cuisine parce que c'est bon.
Mon papa, il ne juge jamais à ce qu'on pense ou à ce qu'on dit. On a toujours notre avis sur ce qu'on pense du monde. Bah, mon papa, bah, c'est le meilleur.
Et la fête des pères au micro France Bleu Maine d'Anna Huot. Moi, ça me donne envie d'écouter ça.
Mon père, il est tellement fort. Il joue au jokari avec une boule de bowling.
Ouais, facile, ouais, non. Mon père. Il est tellement fort,
n'importe quoi,
bah que lui il double des Ferrari quand il fait son footing à pied.
T'es plus dans l'escritoire.
Aldebert, mon père, il est tellement fort. En attendant qu'un jour, peut-être, la charge mentale change de camp de temps en temps.
Et sur le congé parental, je vous renvoie à Interception, juste après le journal. Congé parental, congé paternité. Oui, c'est paternel, c'est bien ça.
Paternité.
Oui, oui. Paternité, juste après le journal de 9h, le magazine Interception. C'est l'heure des sports.
Il y a des matchs.
Match décevant des Bleus hier, tenu en échec par les Hongrois, un partout, l'Euro de foot et une équipe de France étouffée entre la chaleur de Budapest et les cris des supporters. Des Hongrois qui jouent à la maison portée par leur public, le nul arraché après la mi-temps, seulement but signé Griezmann. Les Bleus restent en tête de leur groupe, mais la meilleure attaque du monde a clairement montré ses failles. Pas de panique pour le sélectionneur Didier Deschamps.
Il y a des matchs comme ça, évidemment c'est pas le résultat qu'on espérait, mais on prend un point qui nous fait 4 et nous permet d'avoir toujours les cartes en main sur le troisième. Donc après sur l'analyse du match, voilà, dans nos temps forts, notamment dans la première mi-temps où on a eu les occasions et on n'a pas concrétisé, et eux sur la seule occasion qu'ils ont avant la mi-temps, donc ça leur a donné encore plus de force ici, survolté par la présence de leur public. On peut faire mieux, mais on n'a pas renoncé d'aller malgré tout chercher ce point dans ces conditions-là. On le prend et puis il y aura un troisième match de toute façon pour tout le monde.
Didier Deschamps au micro d'Alexandre Vaux. Les Bleus, le destin entre leurs pieds en vue des huitièmes de finale, ce sera mercredi prochain 21h face au Portugal. Le Portugal vaincu hier soir par l'Allemagne dans ce qui restera sans doute comme l'un des plus beaux matchs de l'Euro. 4-2 pour la Mannschaft qui se relance dans la course au huitième. Vous ne le connaissiez peut-être pas, mais il était une grande figure dans le monde du sport. Pluie d'hommages hier, dont celui d'Mbappé sur Twitter. Il était un exemple pour tous, écrit l'attaquant des Bleus. Philippe Vignolo, dit Philou Sport sur les réseaux, est mort hier. C'est notre esprit sport. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Dites-nous en plus sur Philou.
Un amoureux de sport, passionné par l'actualité, qu'il mettait en lumière avec humour, bienveillance et originalité sur les réseaux sociaux. L'humour et la bienveillance, c'est quand même rare sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, la bienveillance. Son club de cœur, c'était l'Olympique de Marseille. Il adorait le second degré. Et grâce à lui, on pouvait voir des vidéos insolites, des frappes en pleine lucarne, des essais hors normes, des services à 230 km/h. Pour la plus grande joie de ses très nombreux fans, il était ce qu'on appelle un influenceur avec plus de 265 000 abonnés sur Twitter. Quelqu'un d'extrêmement populaire.
Alors, il y a quelques années, plusieurs de ses followers, comme on dit, donc ses abonnés, s'étaient mobilisés pour financer un nouveau fauteuil roulant.
Oui, car Philou Sport était atteint de la myopathie en fauteuil depuis son enfance. Il devait aussi vivre avec un appareil respiratoire. De sa récente notoriété, il disait « Ce qui me touche, ce sont les gens qui te disent que tu sers à quelque chose, que tu n'es pas inutile. » Son décès d'une crise cardiaque hier à 49 ans en Corse a provoqué une pluie d'hommages images sur son terrain de prédilection, Internet.
Par exemple, celui du sélectionneur du 15 de France de rugby, Fabien Galthié.
Qui salue une façon de donner du bonheur qui continuera de nous inspirer longtemps. Les mots aussi que vous aviez évoqués de Kylian Mbappé lui-même hier soir. Une admirable personne avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Un exemple pour tous, un amoureux du foot et de la vie. Et puis, sur le compte de Paris 2024, on peut lire ceci. Tu rêvais de porter notre flamme et nous rêvions de te la donner. Merci pour tout.
Philosport, célébrité sur les réseaux, qui est donc mort hier à 49 ans. Merci Laetitia Bernard pour ce portrait. Enfin, coup d'œil sur la planète ovale. Finale vendredi prochain du top 14 comme un air de revanche entre Toulouse et La Rochelle. La Rochelle battue en Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire aux portes de la consécration nationale. Hier, Toulouse a éliminé Bordeaux-Bègles 24-21.
C'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Et attention aux orages aujourd'hui encore, Jean-Michel Golinski.
Des orages forts aujourd'hui prévus sur un axe Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne-Franche-Comté-Alsace avec à la clé 23 départements en vigilance orange en raison des forts orages prévus sur cet axe avec de la grêle de puissantes rafales pouvant dépasser les 100 km à l'heure et de fortes précipitations avec un début d'événement prévu sur l'Auvergne en cours de matinée, puis dans le nord-est cet après-midi. En marge du système orageux marqué, l'ambiance va rester instable avec possiblement des coups de tonnerre mêlés aux averses, sauf vers la Méditerranée, la Normandie et les Hauts-de-France qui auront un temps beaucoup plus calme et éclairci, mais avec du vent vers 80 km à l'heure du Val-de-Saône à la vallée du Rhône et sur l'arc méditerranéen, et souvent cet après-midi, des températures moins élevées qu'hier.
Jean-Michel Golinski, Météo France.